Voilà, donc ce soir nous commençons le cours du lundi 28 septembre 2020. Je dis ça pour ceux qui vont prendre l'enregistrement. Il y a déjà eu un cours d'introduction et maintenant je vais consacrer les heures à 7 chapitres dont le premier s'appelle le corps. Il y aura 2 cours sur le corps et voici le premier. Sur le corps. Le corps 1. La fois prochaine, nous ferons le corps 2. Il y a une feuille de route là qui peut vous être utile pendant l'exposé. Annette, si tu veux donner une feuille de route au Père Gervais. Merci. Alors voilà. Vous vous souvenez que la fois passée, j'ai présenté Platon, Aristote, Saint Thomas. Le grand problème de ces auteurs, c'était, dans leur définition de l'homme, c'était la dualité corps-âme. Dualité. Dualité ne veut pas dire dualisme. Hein. Dualisme veut dire que c'est séparé, de manière que monisme voudrait dire qu'il n'y ait qu'une seule chose. Hein. Le monisme nie la dualité. Le dualisme accentue exagérément la dualité. Mais je crois que tous les philosophes comme Platon, Aristote, Saint Thomas, eh bien, travaillent avec une dualité. Une dualité corps-âme ou corps-esprit. Et nous avons vu que Balthazar, lui, pour définir l'homme, ne se contente pas d'une définition à 2 termes, animal raisonnable, ni même à 4 termes comme Saint Thomas, une substance individuelle de nature rationnelle, mais il propose 3 polarités. Chaque polarité, évidemment, met 2 termes en tension. Corps-esprit, homme-femme et individu-communauté. Alors, dans ce cours-ci, nous allons prendre la dualité, la polarité corps-esprit. Et la fois prochaine, nous prendrons principalement, au niveau du corps, et etc., plutôt la polarité homme-femme. Le cours prochain, je prendrai le livre de Max Scheler, qui est déjà un livre assez ancien, sur la pudeur, où il explique bien toutes sortes de différences entre l'homme et la femme à partir de l'étude de la pudeur. Et donc cette fois-ci, je prendrai plutôt donc simplement corps-esprit. Et comment est-ce que je vais aborder la question? Eh bien, je vous propose, il y en a déjà plusieurs qui connaissent ce triangle, le triangle des 4 dimensions anthropologiques. Alors c'est comme ça d'ailleurs que commence le livre que Madame Streuf et moi-même nous avons écrit ensemble, Psychologie et spiritualité. Donc ce sont les premières pages de ce livre que vous pouvez d'ailleurs acquérir si jamais ça vous chante. On verra ça après le cours. Donc tout au long de lecture que j'ai faite depuis que j'étudie ces sujets-là, il me semble qu'il y a 4 dimensions anthropologiques qu'il est intéressant de distinguer pour réfléchir sur l'homme. Alors, où est-ce que j'ai été trouver ces 4 dimensions? Eh bien, chez Saint Paul, par exemple, vous avez au bas de la première feuille de route une petite citation de la première lettre aux Thessaloniciens. C'est la fin, c'est la salutation finale. Saint Paul dit « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'esprit, l'âme et le corps. Voilà, il propose donc 3 dimensions qui représentent l'être tout entier. 3 et non pas 4, d'une part. Et d'autre part, vous voyez qu'il y a à la fois l'âme et l'esprit. Alors que parfois, justement, on se dit, bah, tiens, l'âme et l'esprit, est-ce que ce n'est pas la même chose, hein? On en a déjà discuté un tout petit peu la fois passée. Donc je reprends la citation de Saint Paul. L'esprit, l'âme et le corps, vous voyez qu'il commence par l'esprit. 3 choses. Alors de Lubac, dans un article célèbre qui fit date, parle d'une anthropologie tripartite à propos de Saint Paul. Et avec son sens habituel des nuances, eh bien, il commence à définir les rapports entre ces 3 dimensions. De plus, il essaye de distinguer, de montrer quelle est la distinction qui est faite entre l'âme et l'esprit. Donc l'âme, si vous voyez votre schéma, c'est ce que j'appelle le psychisme. En prenant une expression de la philosophie grecque, l'âme, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui anime. L'âme, donc, est quelque chose, est une faculté, hein, une énergie, on en a parlé la fois passée, qui anime tous les vivants. Donc même les végétaux, hein, selon la philosophie d'Aristote, etc., même les végétaux ont une âme, les animaux ont une âme, les êtres humains ont une âme, il n'y a pas que les êtres humains qui ont une âme. Alors souvent on dit justement, hein, nous avons une âme qui ira au ciel, etc. Bon, eh bien là il y a une petite confusion, hein, dans beaucoup de prières, à la messe ou ailleurs, on parle de l'âme. Alors là il y a une petite confusion parce que cette âme-là, dont on parle en religion, ce n'est pas l'âme philosophique d'Aristote. Hein. Ce serait plutôt l'esprit, en tout cas tel que saint Paul en parle ici, hein. L'âme que nous entendons au niveau religieux, eh bien, c'est plutôt ce que saint Paul ici appelle l'esprit. Et donc, je vais réserver le mot âme à la partie psychique. Et dans les dimensions que vous voyez là, il y a la dimension physique, somatique, psychique, rationnelle, spirituelle. Eh bien, l'âme se situe au niveau du psychisme, pour moi. Mais la plupart du temps, je n'utiliserai pas le mot âme, pour ne pas induire en erreur. J'utiliserai le mot psychisme, et pour ce qui est supérieur, je n'utiliserai pas le mot âme non plus, mais plutôt esprit. Alors l'esprit, pourquoi est-ce que l'esprit pneuma, j'ai mis le mot grec là, oui, pneuma, nous, psyché, soma, pourquoi est-ce que le pneuma est indiqué ici? Alors c'est très intéressant chez saint Paul, mais chez de Lubac, bien sûr, il le souligne, le pneuma est à la fois l'esprit humain et l'esprit divin, la troisième personne de la Trinité. Spirituel et pneumatique, si on veut, hein, là, notre vocabulaire ici, c'est la même chose. Spirituel, c'est plutôt du latin, pneumatique, plutôt du grec. Et donc, quand je parlerai de pneumatique ou de spirituel, c'est souvent la même chose. Eh bien, saint Paul utilise l'esprit, pneuma, pour désigner cette faculté supérieure de l'homme qui, elle, est propre à l'homme. Hein? Les animaux n'ont pas de pneuma. Ils ont une âme, au sens psyché. Ils ont peut-être même une forme d'intelligence, on ne va pas en débattre ici, mais ils n'ont certainement pas, dans l'anthropologie que je développe, un esprit. Parce que l'esprit, ce n'est pas l'intelligence, donc, hein? L'esprit, c'est cette faculté qui est en contact, en communication avec ce qui est transcendant, ce qui nous dépasse, et par excellence, donc Dieu lui-même et l'Esprit Saint. Donc l'utilisation du mot esprit avec majuscule ou minuscule, hein, signifie que là nous avons un contact, une communication de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Nous pouvons par exemple lire dans la première aux Corinthiens, hein, il parle de l'Esprit de Dieu qui parle à mon esprit, etc. Bon, c'est comme ça que je prends les choses. On peut évidemment en discuter. Je fais une petite remarque ici, c'est que donc, nous avons une anthropologie tripartite chez saint Paul, quadripartite pour moi. Elle est bâtie sur la philosophie grecque et sur la révélation qui se donne à travers la langue hébraïque, et à travers la langue grecque, qui est beaucoup plus, disons, de type philosophique, mais tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Et j'ai une fois entendu une conférence extrêmement intéressante de quelqu'un qui expliquait que c'était incroyable qu'une philosophie ou une idéologie ou une religion se développe à partir de deux langues aussi différentes que l'hébreu et le grec. Donc nous avons en hébreu, par exemple, eh bien, toute une manière de désigner l'être humain. Mais on ne parle pas de nous, et de, etc. On parle très différemment. Hein. On parle du regard, on parle de la langue, de la peau, des mains, etc. On est beaucoup plus concret. Hein. Alors il y a l'âme, évidemment, nafshi, mais nafshi c'est l'être, c'est ce qu'il y a de plus central en moi, mon âme. Mon âme, c'est un mot qui revient tout le temps dans les psaumes. Bénis le Seigneur, ô mon âme, pourquoi te lamentes-tu, ô mon âme? Mais cette âme, on a traduit âme, on pourrait très bien dire mon être tout entier aspire vers le Seigneur, mon âme aspire vers le Seigneur. Donc, nous avons là, dans notre manière de penser, donc quelque chose qui s'est constitué à la fois à partir de l'hébreu et du grec, mais du grec écrit par des auteurs qui sont de langue sémitique. Hein, parce que les quatre évangélistes et saint Paul parlent hébreu avant de parler grec, sans doute. Pour les évangélistes, en tout cas, certainement. Je vous ai donc dit que le mot âme était un peu ambigu, donc je ne l'utiliserai pas beaucoup. Mais vous avez donc compris qu'à un niveau philosophique, l'âme se situe, je dirais, au deuxième niveau psychique, tandis que si on veut le mettre à un niveau religieux, on le mettra comme un équivalent de l'esprit. Alors, un auteur comme Origène, qui est mort vers 254, eh bien, lui a les quatre dimensions. Il connaît très bien saint Paul, évidemment, mais il ajoute le nous qui est l'intelligence, la raison, qui est typiquement grec. Hein? Voilà. Le nous, la pensée, c'est évidemment ce que les Grecs mettent au sommet de tout. Il y a même un magnifique texte d'Aristote qui dit que Dieu, c'est noesis noeseos. Noesis, c'est la pensée au sens actif du terme. Hein? Le nous, c'est la faculté qui peut penser. La noesis, c'est la pensée. Noesis, noeseos, Dieu est la pensée de la pensée. Il est la pensée de la pensée elle-même. Voilà, donc le nous me semble fort intéressant d'introduire la pensée au sens de l'intelligence et de la volonté. Alors là, Origène donc, introduit les quatre termes, et saint Ignace, dans une prière célèbre, numéro 234 des exercices spirituels, dit « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et ma volonté. Tout ce que j'ai, possède, tu me l'as donné, etc. » Alors moi je comprends, à la suite de Fessard et d'autres, « Prends toute ma liberté, deux points, égale, la liberté égale, mémoire, intelligence, volonté. » La liberté, c'est la mémoire, plus l'intelligence, plus la volonté en synergie. Être libre, ce n'est pas simplement faire ce que je veux, volonté, c'est aussi être libre, c'est avoir en mémoire toute sa vie passée, être fidèle et cohérent avec ce passé par la mémoire, c'est comprendre la situation, intelligence, être libre, c'est être intelligent et discerner, hein, ce qu'il faut faire, et volonté, finalement, c'est le faire, pas par volonté arbitraire, mais parce que c'est cohérent avec le passé, parce que ça donne sens à ma vie au niveau de l'intelligence. Donc voilà, c'est pourquoi je mets saint Ignace là-bas, liberté, intelligence, volonté, mémoire, à ces niveaux-là. La liberté est proprement spirituelle, la mémoire est physique et psychique, hein. La mémoire, c'est quelque chose qui est principalement dans le psychisme, d'accord, mais dans le cerveau. Hein. Donc il y a une partie vraiment physique pour la mémoire, et le corps d'ailleurs, qui a une cicatrice par exemple, eh bien, a une mémoire de ce qui s'est passé. Mais voilà, je mets plutôt la mémoire au niveau psychique. L'intelligence et la volonté, tous les deux au niveau rationnel. Alors ça, c'est important aussi, me semble-t-il, dans une anthropologie, c'est de considérer que la raison, qui est le propre de l'homme, homme, hein, animal raisonnable, la raison, c'est bien sûr l'intelligence, mais c'est aussi la volonté. La volonté, c'est la raison pratique. La volonté, ce n'est pas quelque chose qui est, chez l'homme, hein, sans raison. La volonté, c'est la mise en œuvre de l'intelligence, de la raison théorique, si on veut. Hein. la volonté n'est pas une faculté différente de la raison. D'ailleurs, chez Kant, par exemple, il y a deux critiques, hein, la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Voilà, il y a deux raisons, hein, l'intelligence et la volonté, au fond. L'un, c'est que puis-je savoir, et l'autre, c'est que dois-je faire. Que puis-je savoir, c'est une question typiquement humaine, mais que dois-je faire, c'est aussi une question typiquement humaine, hein, et peut-être même encore plus, et qui s'appuie sur que puis-je savoir, que dois-je faire. Alors Kant indique que dans un écrit sur la religion, que l'être humain, eh bien que l'être humain est composé de ces trois parties, l'animalité qui correspond à son corps, l'humanité qui correspond à ses sentiments psychiques, et enfin la personnalité qui correspond à sa raison. La personnalité. Alors j'aime bien qu'il prenne ce mot personnalité, parce que comme vous vous en souvenez, hein, dans l'anthropologie que je vais développer, je vais constamment distinguer, hein, l'individu et la personne. La personne est un individu, mais l'individu n'est pas nécessairement une personne. L'individu doit devenir une personne. Hein. L'individu, c'est le point de départ, et de manière humaine, par l'éducation, la réflexion, etc., il devient progressivement une personne pour lui-même, mais aussi pour les autres. Par la richesse de toutes ses relations, il se personnalise de plus en plus. Je dirais que là aussi, il y a une différence par rapport à l'animal. Je dirais, plus on est haut dans l'échelle des êtres, plus chaque individu est singulier, personnel. Bon, vous avez des chiens, vous ne confondez pas votre chien avec celui du voisin, bien sûr. Mais, disons, quand on descend dans l'échelle des êtres, bon, ben, est-ce qu'il y a une différence entre un rat et un autre rat? Vous n'avez peut-être pas bien observé, il y en a une, mais enfin, ça ne vous dit pas grand-chose. Entre une fourmi et une autre, encore moins, entre un virus et un autre, voilà. Là, vous ne voyez plus la personnalité. Hein. C'est quand on monte dans l'échelle des êtres que l'individu devient de plus en plus personnel, et qu'on passe de plus en plus, ce sont aussi les catégories que je vais souvent utiliser, du particulier au singulier. Du particulier au singulier. Je vais souvent utiliser cette triade, universel, particulier, singulier. Ça, c'est une trilogie qui vient de Hegel. Hein? Allgemeinheit, Einzelheit et Besonderheit. Voilà, ça c'est... Il y a là une dialectique. Hein? Le singulier, c'est un particulier, la personne, c'est un individu qui est en communion avec l'universel. Mais on en reparlera peut-être à d'autres moments. Donc ainsi, vous avez un peu l'explication des trois niveaux, le niveau physique, somatique, biologique, le niveau psychique, le niveau rationnel avec intelligence et volonté, le niveau spirituel, qui est vraiment donc la fine pointe de l'âme, si on veut, qui est également, dans la théologie de saint Paul en tout cas, hein, en contact direct avec Dieu. Alors voilà, vous voyez que moi j'ai récolté un petit peu chez différents auteurs ces catégories que je trouve parallèles. Mais il y a beaucoup d'auteurs dont je vois qu'ils utilisent un peu la même... anthropologie quadripartite. Par exemple, j'ai assisté une fois à une conférence de Jean-Yves Leloup, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Yves Leloup, hein, en tout cas c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences et qui a un certain succès. Eh bien, il a commencé sa conférence pratiquement comme ça, hein, en expliquant ses quatre niveaux. J'étais très étonné, je ne le connaissais pas, tu le connais bien, hein, je ne le connaissais pas, mais voilà, il est vraiment parti de la même manière. Alors, je vais vous lire un petit extrait, une petite phrase de Daniel Barenboim. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un chef d'orchestre, hein, qui joue d'ailleurs souvent avec Perlman, Isaac Perlman. Et voilà ce qu'il dit. Le pouvoir de la musique, je reparlerai d'ailleurs de la musique, tient à sa capacité de parler à l'être humain sous tous ses aspects. La musique. Animal, émotionnel, intellectuel et spirituel. C'est un chef d'orchestre. Hein? Animal, quand il fait un concert pour les gens, eh bien, il a conscience de s'adresser à cette partie animale, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. On pense souvent que les questions personnelles, sociales et politiques sont indépendantes, sans influence de l'une sur l'autre. C'est objectivement impossible, nous apprend la musique, qui lie toutes ces questions. Il n'y a tout simplement pas d'éléments indépendants. La pensée logique et les émotions intuitives doivent être constamment unies. La musique nous apprend en bref que tout est lié. Voilà comment un musicien un peu philosophe, un peu spirituel, vient donner les choses. Et pour ma part, j'anticipe déjà un peu alors, en musique, je trouve qu'il y a, tout au bas de la première page, il y a une correspondance très nette avec ces niveaux. Un niveau du corps. La musique, à mon avis, se compose de différents éléments. Il y a du rythme. Si vous voulez être un bon musicien, il faut apprendre à battre la mesure et à ne pas être trop fantaisiste. Hein. Il y a la mélodie. Alors, la mélodie, ça c'est la séquence des notes qui vous touche par les contrastes, par la rapidité, par les inattendus, etc. La mélodie touche le psychisme. Et enfin, il faut harmoniser tout ça. Il faut orchestrer. Il faut mettre un accompagnement. Hein. D'ailleurs, il y a des compositeurs qui sont très forts en mélodie, par exemple, et beaucoup moins forts pour mettre de l'orchestration. Hein. Il y a des gens qui sont des génies de la mélodie, et puis, quand ils doivent composer la partition pour orchestre avec 25 instruments, là, il faut vraiment réfléchir. Hein. C'est du rationnel. Et d'ailleurs, parfois, il y a des orchestrations faites par d'autres compositeurs que celui qui a inventé la mélodie. Un peu de génie différent. La mélodie touche l'âme. Évidemment, les instruments qui ne jouent que la mélodie sont des instruments beaucoup plus sentimentaux. Le violon ne joue jamais que la mélodie. Hein. Bon, on a une mélodie qui va toucher aussi. Donc, les instruments qui, eux, font des dizaines de notes, hein, comme l'orgue par exemple, le piano bien sûr, mais déjà l'orgue et la guitare et tout, eh bien, c'est tout un arrangement beaucoup plus rationnel. Il y a une mélodie qu'on soutient. Mais l'arrangement, lui, il a réfléchi. Il y a des règles. Bon, il ne faut pas sortir de la tonalité, ou bien il faut le faire d'une manière harmonieuse quand même, etc. Ça, c'est de l'ordre de la raison. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à cela, mais rythme qui est dans le corps. Alors, pourquoi est-ce que le rythme est dans le corps ? Et le cœur, exactement. Il y a un rythme naturel qui est le rythme du cœur, le battement du cœur. Comment est-ce qu'on apprend à rythmer quelque chose ? Parce qu'on sent en soi le rythme du cœur. Donc là, c'est vraiment un fondement tout à fait basique et que tout le monde a, c'est le rythme du cœur qui donne le rythme de beaucoup de choses. Le rythme de la musique, mais de la pensée, des décisions, etc. Enfin, on apprend le rythme en sentant son cœur battre. Et je fais déjà un saut au numéro 5, la symbolique du corps. Le corps est l'archi-symbolisable, dit Lacan. Le corps est l'archi-symbolisable. Tous nos symboles, et même tous nos concepts, et tout ce que vous voulez, ont des racines dans le corps. Toute notre manière de penser, même peut-être des équations les plus ardues, quelque part, il faut un lien avec le corps, parce que c'est dans le corps qu'on a tout appris. Alors, vous pouvez vous amuser, par exemple, à relever dans un livre ou dans une poésie, etc., toutes les allusions au corps qui sont faites lorsqu'on veut expliquer un sentiment, mais même lorsqu'on veut expliquer un mouvement en physique, par exemple, On vous dira, vous êtes dans une voiture, ça accélère, vous sentez que, etc. On fait allusion au corps pour comprendre non seulement les sentiments, mais aussi les concepts. Les concepts physiques et sans doute même mathématiques. On fait allusion au corps. Je prends mon courage à deux mains, etc. Toutes ces expressions montrent à quel point le corps est le référent principal pour tous les niveaux qui s'enchaînent ensuite. Le psychique, le rationnel et même le spirituel. La mystique, n'est pas la seule manière d'être spirituel, bien sûr, mais la mystique, souvent, eh bien, fait aussi allusion au corps. Hein. La poésie mystique, eh bien, met en scène des parfums, met en scène des lumières, etc. Bon. Pour exprimer des choses spirituelles. Alors, bien sûr, tout ça ne veut pas dire que l'être humain est découpé en quatre tronçons. Hein. L'être humain est un. Ça, c'est le principe de base. L'être humain est un. Mais ce n'est pas du monisme. Il y a quand même une dualité, ou même une polarité, qui s'exprime dans ces quatre niveaux. 1, 2 est plutôt un pôle, et 3, 4, l'autre pôle. La division que je propose donc, ne suggère absolument pas que l'homme est composé de facultés hein, qui sont étanches, ou même en série, ou en parallèle, ou tout ce que vous voulez, non. Reliées de manière mécanique, il y a une unité. Et je dirais que l'homme peut être plus ou moins unifié dans ces quatre dimensions. Il peut être plus ou moins unifié. Alors pourquoi saint de corps et saint d'esprit, hein, équilibré, heureux, avec toutes les dimensions de son corps, cette unification peut-être le résultat d'une vie heureuse, etc., peut requérir un effort parfois. Parfois cette unité est déstructurée par un traumatisme, par une grande douleur, par un deuil, par je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose là qui commence un peu à se désharmoniser, à se déséquilibrer. Et il faut travailler à refaire cette unité. Mais bien sûr, je dirais que l'homme le plus équilibré et le plus heureux est celui qui fait communiquer hein, ces quatre dimensions les unes avec les autres, de bas en haut et de haut en bas. Hein? Tout ne part pas d'en bas, tout ne part pas d'en haut. Il y a une circulation, et je crois que cette circulation est vraiment très importante. Et lorsqu'on veut réfléchir psychologiquement, spirituellement à l'être humain, disons, ces quatre dimensions et la circulation des choses entre ces quatre dimensions est très importante. Prenons par exemple un souvenir. Mais le souvenir s'enracine dans le corps, et même dans le cerveau, dans des neurones. Bon. Mais le souvenir a toujours aussi une réalité psychologique, agréable ou désagréable. Rares sont les souvenirs hein, qui sont chimiquement purs. Quand vous vous souvenez de quelque chose, j'aime pas trop me souvenir de ça, ou bien au contraire, ah oui, on se souvient, c'est quand même bien, etc. Donc ils ont une tonalité psychique. Beaucoup de souvenirs sont inconscients, sont enfouis en dessous du seuil de la conscience. Mais ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir après un certain temps. Ils peuvent revenir parce qu'un événement les rappelle, parce qu'on fait un effort pour les rappeler. La mémoire est aussi, évidemment, le matériau de l'intelligence. Le matériau de l'intelligence. Une grande mémoire est souvent un atout extraordinaire pour faire fonctionner son intelligence. Mais l'intelligence et la mémoire, c'est pas la même chose. Hein. Comme vous savez, il y a des étudiants qui étudient tout par cœur sans comprendre, dit-on. Hein. D'autres qui retrouvent les affaires en raisonnant, c'est très bien. Mais évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Hein. Et comme vous savez, quand on fait la comparaison avec l'ordinateur, on a parfaitement les deux choses. Hein. Le côté mémoire, stocker des données, et puis le côté intelligence, le logiciel, donc qui fait tourner les données dans un certain ordre logique. Le souvenir peut aussi jouer un grand rôle dans notre vie spirituelle, dans notre vie donc de l'esprit, dans notre prière. Louer Dieu, c'est peut-être un sentiment psychique, d'allégresse, de contentement, de gratitude et tout ça. Mais c'est aussi un sentiment spirituel qui nous met en contact avec Dieu. Se souvenir de nos frères, de nos sœurs qui sont ici à gauche, à droite, vivants ou défunts, c'est aussi une manière de prier. Hein. La prière, la vie spirituelle, se nourrit beaucoup de la mémoire. Et je crois que souvent, je ne vais pas dire qu'on ne prie pas bien, on essaie toujours de prier, Seigneur, apprends-nous à prier. Hein, mais je crois que souvent, on ne fait pas assez confiance à la mémoire pour prier. On se dit, oui, la mémoire, c'est des distractions. Ben, c'est des distractions, peut-être, mais enfin, intégrer des événements dont on se souvient, heureux ou malheureux, dans sa mémoire psychique et spirituelle, je crois que c'est une belle prière, hein. C'est une belle unification de l'être humain qui se fait en renouant, je dirais, avec ses souvenirs. C'est parfois, ça permet des pardons, ça permet des décisions, etc. Alors voilà, dans mon schéma, comme vous voyez, la base est très large, le corps, hein, est très large, et l'esprit, c'est une fine pointe qui va vers le haut. En effet, le corps, comme premier niveau, il est toujours là, et il est la base de tout. Et il est l'assise de tout. Donc le corps est l'assise du psychisme, le psychisme est l'assise de la raison, et la raison est l'assise de l'esprit. Il n'y a pas de psychisme sans un corps vivant à sa base. Il n'y a pas d'intelligence sans un psychisme dans lequel il s'enracine. Il n'y a pas d'esprit ni de spiritualité sans à la fois le corps, le psychisme et l'intelligence. Alors pourquoi est-ce que le sommet est aussi petit ? Ben c'est peut-être parce qu'on y arrive moins souvent. Hein, parce que, oui, il a un niveau plus élevé, mais il est peut-être moins fréquemment habité, tandis que le corps est toujours habité. Le corps est toujours là. Le corps, il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas là. Il est toujours là, notre insu, que nous soyons dans la veille ou dans le sommeil, dans la digestion, dans le déplacement, le corps est toujours là, et il fait toujours son boulot, hein, à notre insu, qu'il soit blessé, malade, en bonne santé. Il travaille, hein, à se restaurer, il travaille à se réunifier, à se reposer, etc., avec ou sans l'aide de la médecine. Lui, il est toujours là, hein, et il travaille. Et ça fait partie de notre dimension humaine. Notre corps est toujours là, et il est toujours au travail. Le cœur qui bat, c'est absolument incroyable. Il y a des personnes qui meurent à 100 ans, et bien, il y a 100 ans que ce petit cœur, il bat. Incroyable. Formidable.
Combien de fois?
Ben, on peut calculer, il y a quelques zéros, hein. Mais finalement, pas encore tellement lorsque on compare ce nombre de zéros à d'autres dimensions, hein, d'années-lumière et tout ça. Mais c'est vrai, hein, des milliers, des millions de fois. Et c'est comme ça pour tous les êtres vivants. Hein. Tous les vivants que nous voyons, il y a un petit cœur qui bat. Hein. C'est magnifique. Le psychisme, lui aussi, est presque constamment au travail. Hein. Nous sommes presque constamment occupés à sentir que ça va ou que ça ne va pas, hein, qu'on est en forme ou qu'on n'est pas en forme. Et lui aussi travaille souvent à notre insu, et souvent en lien assez étroit avec le corps. Ben, lorsque le corps est malade, ben, on commence à déprimer un petit peu, il faut mettre de l'énergie pour ne pas perdre le moral et tout ça. Bon. Le rationnel aussi s'appuie sur le corps. Lorsque vous voulez étudier, ben, il faut avoir une bonne chaise, avoir de la bonne lumière, etc. Bon, vous mettez au travail. Il faut aussi avoir l'esprit un peu libre, le psychisme un peu dégagé. Si vous êtes plein de soucis ou plein d'angoisse, ben, la raison ne va pas beaucoup travailler comme il faut. Hein. Donc là, avec l'intelligence, il y a déjà quelque chose, une attention beaucoup plus soutenue, beaucoup plus volontaire, personnalisée, singulière, pour pouvoir penser. Et la partie spirituelle, eh bien, est celle qui fait au fond la synthèse de tout cela, qui ne demande pas nécessairement une concentration plus grande que la partie intellectuelle, mais sans doute une unification plus grande, hein, d'une certaine manière. Alors, comme je disais, le corps malade, eh bien, peut influencer tous les niveaux, mais aussi un esprit, hein, je dirais, qui reçoit la grâce de Dieu et qui vit dans l'harmonie avec les autres, etc., peut aussi influencer l'intelligence et le psychisme et le corps. Hein. Il y a des gens qui sont très malades, mais dont l'esprit est tout à fait vif et la foi est grande. Et voilà, ils sont capables de vivre cela sans se laisser effondrer, hein, par le corps qui ne suit pas beaucoup. Alors, dans le dessin, là, de nouveau, vous voyez une ligne ondulée dans la partie du psychique. C'est au-dessus le conscient et en-dessous l'inconscient. J'ai mis une ligne ondulée parce que cette ligne, elle est fluctuante. C'est sûr que dans le sommeil, eh bien, il y a plus en dessous qu'au-dessus. Et même à l'état de veille, vous pouvez très bien être complètement inconscient de beaucoup de choses, et même pendant des années, et il vous faut faire un effort de psychanalyse ou autre, peut-être, hein, pour faire émerger des choses qui sont dans l'inconscient à la conscience. Peut-être que ça va apparaître à la conscience pendant quelques temps, jours, semaines, mois, et puis disparaître parce que la vie fait qu'on n'a pas besoin de s'en souvenir constamment. Mais donc il y a un va-et-vient, je crois, dans le psychisme entre le conscient et l'inconscient. Autrefois, cette dimension-là, chez tous les philosophes, était complètement ignorée. Hein. Vous prenez les saint Thomas, mais même les Descartes et tout ce que vous voulez, c'est extrêmement rare qu'on évoque quelque chose qui soit inconscient dans l'homme. Hein. Ce qui est inconscient, c'est le corps, enfin, ou les mécanismes du corps, ça va. Mais il n'y a pas un entre-deux psychique. Hein. Les rationalistes, d'habitude, tout ce qu'il est possible de conceptualiser, eh bien, est conscient, quoi, hein. Est clair et immédiat à l'attention de la personne. Je crois que c'est bien sûr avec Freud qu'on a commencé à faire une part de plus en plus nette, hein, à cette partie inconsciente dans le psychisme, et à dire aussi que ce n'est pas tout ou rien, hein, qu'il y a une fluctuation entre les deux, un passage possible. Je regarde toujours là parce qu'il y avait une horloge là-bas, mais je l'ai enlevée parce qu'il n'y en avait plus de pile. Je vais la remettre. Alors, quelques applications possibles des quatre dimensions anthropologiques. Comme je travaille sur ces quatre dimensions depuis un certain temps, eh bien, nous sommes arrivés avec Dominique, entre autres, etc., à regarder comment on peut distinguer. Nommer de manière plus précise le bien et le mal en fonction de ces quatre dimensions. Eh bien, prenons le niveau, c'est un écrit un peu plus petit, vous voyez là. Le bien physique, eh bien, c'est la vie, la santé, et le mal physique, c'est la maladie, la blessure, la mort. Pour le psychisme, eh bien, c'est le bien-être, l'harmonie, on se sent en forme, on se sent unifié, on se sent, hein. Et le psychisme, c'est le dysfonctionnement. On fait des choses, on se demande pourquoi, ou on ne les fait pas, on se demande pourquoi on ne parvient pas à dormir, ben, ça dysfonctionne, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas moyen de corriger, bon, en tout cas ça a l'air difficile. On fait des choses qu'on observe, hein, qu'il y a une certaine bien-être qui est troublé. Au niveau de l'intelligence, eh bien la vérité, le vrai, c'est le bien, et l'erreur, c'est le mal. Le mensonge, ben, c'est une erreur, je dirais, volontaire. Hein. On essaie de faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Au niveau volontaire, il y a la faute morale. Et au niveau du bien, il y a voilà, le bon. Pour le mal, au niveau spirituel, il y a le péché et l'amour. Alors, nous avons indiqué erreur psychologique, là, qui se trouve un petit peu justement sur cette ligne ondulée, hein, entre l'intelligence et le psychisme, une erreur psychologique, eh bien c'est une erreur qu'on fait en croyant bien faire, parce qu'on n'a pas suffisamment, non pas réfléchi, parce que souvent on fait une erreur psychologique, mais on a bien réfléchi à cette erreur, on a toute une argumentation, mais on ne sent pas bien les choses. Hein, il y a des éléments qu'on n'a pas suffisamment sentis. Alors je prends un exemple que je prends toujours, mais qu'une fois on m'a vraiment dit que ce n'était pas du tout ça. Hein. Si par exemple vous gâtez trop votre enfant, vous croyez lui faire du bien, et en fait vous ne lui faites pas du bien. Bon. Alors pour la personne qui contestait, gâter c'était tout à fait positif. Hein. Moi je gâte mes petits-enfants, hein, et forcément bien les gâter, tout ça. Mais le mot gâter au dictionnaire ne signifie pas seulement chérir, mais un peu chérir à tort et un petit peu à contre, manière contre-productive, quoi. Donc voilà, ça c'est une erreur psychologique. On veut faire le bien et on le fait effectivement, mais on ne voit pas qu'il y a des conséquences qui ne sont pas si bonnes que cela. Alors je distingue aussi au niveau de l'amour, quatre manières de désigner l'amour par rapport à ces dimensions. Je mets les mots grecs parce que c'est difficile de traduire, certains sont plus faciles que d'autres. Au niveau psychique, vous voyez Eros. Au niveau rationnel, vous avez Philia, l'amitié. Rationnel, ça veut dire intelligence et volonté. Hein? Au niveau de l'esprit, vous avez Agapé. Bon, l'agapé, vous connaissez ce mot. Hein? C'est l'amour vraiment évangélique. C'est l'amour qui n'est possible, ça c'est ma définition avec Grégoire de Nice et d'autres, qui n'est possible que par la grâce. Qui n'est pas un amour que l'homme peut fournir par lui-même. Il a besoin absolument de la grâce de Dieu pour aimer de cette manière tout à fait pure, désintéressée, etc. Et storgé, eh bien c'est très simple, c'est, je dirais, l'amour fraternel, l'amour maternel au niveau de la génération, au niveau de la... d'une famille, ben on s'aime entre frères et sœurs ou parents-enfants, etc. C'est quelque chose qui est inscrit dans le sang. Hein. Voilà. Ce n'est pas toujours conscientisé, et puis de toute façon, ça évolue. Hein. Mais je dirais que chez les animaux aussi, il y a un soin que la mère surtout prend par rapport à ses petits. Hein. Ben, c'est un soin qui est une forme d'amour, mais qui est complètement enraciné dans son instinct animal, maternel. Et d'ailleurs, s'il est un peu troublé, il est vite abandonné. Donc, storgé, c'est un mot grec qui veut dire affection, quelque chose comme ça, attachement. Eros, philia, agapé. Et alors, ces amours ne se contredisent pas, ne se suppriment pas l'un l'autre. Je dirais que dans un couple, il y a à la fois Eros et philia qui peuvent culminer, je dirais, dans agapé. Hein. Mais c'est évident que l'amitié est quelque chose qui ajoute, hein, évidemment, à l'amour de l'attraction sexuelle Eros. L'amitié dans le couple, eh bien, constitue un amour plus solide et qui finit par pouvoir être lui-même carrément spirituel dans l'agapé. Mais ça n'élimine pas, hein, les autres éléments. Je vous ai déjà parlé de ma musique, là. Bon. Alors, pour certains, on pourrait se demander, tiens, mais est-ce que cette dimension spirituelle que vous ajoutez là-dessus, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas un peu trop chrétien? Est-ce que c'est... bon, est-ce que c'est, en philosophie, on est obligé d'admettre cette dimension? Alors, la première chose que je dirais, c'est que la dimension spirituelle ne s'adresse pas nécessairement à Dieu, mais elle s'adresse à quelque chose qui dépasse la raison. Donc, voilà, le respect de la transcendance, le respect des valeurs, ce qui concerne l'amour, la mort, le destin final, etc., ce sont des choses qui dépassent, hein, la raison. Et qu'un philosophe peut estimer comme tout à fait valable dans sa réflexion, hein, de réfléchir à des valeurs transcendantes, mais qui ne sont pas mises en Dieu. Hein. Pour nous, dès qu'on pense à ces choses-là, ben on le relie avec le Christ, avec Dieu, avec la Trinité peut-être, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spirituelles sans être religieuses. Hein. Et donc, je ne dis pas que cette quatrième dimension n'existe pas, hein, chez des gens qui n'auraient pas lu Saint Paul, etc. Hein. Mais il y a certainement des gens qui sont des rationalistes, qui disent qu'au-delà de la raison, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'ajouter un respect des valeurs transcendantes et tout ça, que ça c'était... L'humain est un animal raisonnable, et puis ça se limite à la raison. Et voilà, il a une raison sèche, claire, nette, et que ça suffit à définir l'homme, qu'il n'y a rien de plus. Hein. Les esprits qui n'apprécient peut-être pas beaucoup la musique, la poésie, la philosophie, tout ça, ils disent voilà, il faut être raisonnable. Hein. et ça suffit. Ben, je dirais que ceux-là, eh bien, ils sont comme dans le dessin du dessus, avec trois dimensions, et ils croient qu'il n'y a rien de plus. Et moi, je crois que, en fait, ils ont aussi cette quatrième dimension. Mais ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas la reconnaître, ils ne veulent pas lui donner une place dans leur vie. Et du fait même, je crois qu'ils ne se décapitent pas seulement de ce quatrième étage, mais, comme vous voyez dans le second dessin que j'ai fait là, ils transforment aussi chacune des autres dimensions. Hein. Parce que le fait d'admettre une dimension spirituelle dans l'homme donne aussi une couleur différente à sa manière de concevoir la raison, le psychisme et même le corps. Hein. Si vous admettez une valeur transcendante de l'être humain, ben, son corps lui-même devient, non pas spirituel, mais il est nécessaire de l'envisager avec une dimension spirituelle. On ne peut pas faire de son corps n'importe quoi, ni même simplement le traiter avec la raison, il faut le traiter avec un respect qui dépasse cela. Alors, je prends maintenant la ligne qui partage ici le corps et le psychisme. Je prends cette ligne-là. C'est une inspiration de Vergaute. Hein. Cette ligne-là est la ligne où je situe la pulsion. La pulsion. Donc Vergaute, qui est un psychologue, un psychanalyste, eh bien, il a beaucoup étudié et critiqué Freud, et Freud parle de la pulsion. Pour lui, les deux pulsions, selon Freud, c'est, après certaines recherches, c'est Eros et Thanatos. Vous connaissez ces deux mots, Eros, donc la pulsion sexuelle, et Thanatos, la pulsion d'agressivité. Vous savez que Freud, dans la première topique, comme on dit, ça veut dire au début de sa carrière, il considérait qu'il n'y avait que Eros. Tout était ramenable à Eros. D'où la critique de pansexualisme qu'on pouvait lui faire. Bien. Mais il a introduit plus tard Thanatos. Et à quel moment? Parce que vous savez, cela, c'est assez intéressant. Eh bien, c'est après la guerre 14-18. Parce qu'il s'est dit, ce que je vois ici, comment est-ce que je vais faire pour le ramener à Eros? Eh bien, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a dans l'homme une autre pulsion. On peut ramener peut-être beaucoup de choses à Eros, mais ramener tout à Eros, c'est pas possible. Il y a dans l'homme comme aussi un désir, un plaisir de détruire, de tuer, de mourir, de se tuer soi-même, peut-être. Il n'y a pas que le désir de plaisir, le désir de la rencontre, de la communion, tout ça. Il y a aussi, et il l'avait observé bien sûr dans ses psychanalyses, etc., il y a aussi comme une autre pulsion qui n'est pas nécessairement le contraire, mais qui est très différente et qui va dans un sens de, eh bien, non pas la vie, non pas la spontanéité de la rencontre, etc., mais au contraire, l'agressivité, l'opposition, la destruction. Il y a un plaisir, semble-t-il, à détruire, et que l'on remarque bien dans la guerre. Alors bien sûr, la guerre s'explique par toutes sortes de raisons, mais Freud, comme psychologue, disait où se trouve la vraie motivation, finalement, de toutes ces guerres. À côté des explications historiques, politiques, qui existent, bien sûr, mais plus fondamentalement. Alors, ça, ce sont les deux pulsions principales, selon Freud, chez l'être humain. Alors, je transpose cela dans les deux petits encarts que vous trouvez sous le 4. Chez l'animal, il y a un instinct que d'habitude on analyse de deux manières, en disant qu'il y a les besoins et les pulsions. Ça, l'instinct animal, eh bien, comprend des besoins et des pulsions, avec un dynamisme, évidemment, qui tend à satisfaire les besoins et à assouvir les pulsions. La différence qu'il y a entre besoin et pulsion, eh bien, c'est que les besoins sont absolument nécessaires pour survivre, comme la faim, le sommeil, etc. Donc il y a quelque chose de complètement passif et nécessaire dans la mise en branle de ce dynamisme pour la survie, tandis que la pulsion, eh bien évidemment c'est un dynamisme mais qui n'est que possible. On peut survivre sans assouvir aucune pulsion. Alors peut-être qu'on ne vit pas très heureux ou qu'on ne vit pas très épanoui, j'en sais rien, mais on survit physiquement, tandis que le besoin est vraiment de l'ordre physique. Si on ne satisfait pas le besoin, eh bien, il y a danger pour la survie. Si on compare cela avec ce que vit l'homme, selon Vergaud, ici, dont je m'inspire, tout est redoublé chez l'homme. Il n'y a rien qui soit simple. Tout est redoublé du fait de la conscience réflexe, en fait. C'est-à-dire que non seulement j'ai faim, mais j'ai conscience d'avoir faim, et j'ai conscience que je peux me nourrir ou pas me nourrir de différentes manières, et que ça entraîne des conséquences, pas seulement sur mon estomac, mais sur beaucoup d'autres choses, etc. Donc il y a comme un redoublement et des besoins et des pulsions, si bien que Vergaud parle toujours chez l'homme de besoins psychophysiques et de désirs pulsionnels. Vous voyez qu'il ajoute psychophysique pour les besoins. Donc le besoin n'est pas que physique, il est psychophysique. Et pour la pulsion, il ajoute désir pulsionnel. Il ajoute le mot désir. Selon lui, chez l'animal, il n'y a pas de désir comme tel. Il y a une pulsion, qui est un dynamisme qui le mène à une action, bien sûr, mais ce n'est pas de l'ordre du désir. Le désir est proprement humain. Alors, besoin psychophysique, ça veut dire quoi? Eh bien, vous pouvez avoir faim, mais ça ne veut pas encore dire que vous allez manger. Si vous avez décidé de jeûner, ou si vous êtes, affligé d'anorexie, bien, etc., ou bien si vous voulez faire un sacrifice pour la faim dans le monde, ou bien toutes sortes de choses, bien sûr, voilà. Vous pouvez traiter ce besoin de manière psychique, et bien sûr intelligente, etc. Donc l'homme qui a faim, eh bien, n'est pas contraint absolument par la nécessité, et même s'il y a une certaine nécessité, il y a une réflexion là-dessus qui entraîne une coloration psychique de ce besoin. Et la satisfaction qu'il aura quand même s'il mange bien sera une satisfaction psychophysique, pas seulement physique, mais psychophysique. Parce que tous les besoins les plus élémentaires chez l'homme sont raffinés par toutes sortes de comportements. On cuisine, on essaie de cuisiner comme il faut, etc. On essaie de cuisiner écolo, on essaie de manger avec ses amis, on essaie, etc. Bon, autour de la nourriture, il y a évidemment toute une culture qui s'est installée et qui fait que la satisfaction n'est pas uniquement physique. De même, quand vous voyez la pulsion, que ce soit Eros ou Thanatos, eh bien, la pulsion, elle est un désir pulsionnel. Et il n'y a pas d'assouvissement comme tel, il y a un plaisir psychophysique qui est inconnu de l'animal. Bien sûr, l'animal a un assouvissement, mais cet assouvissement n'est pas de l'ordre de la dialectique désir-plaisir, selon Vergaud, et je crois que cette différenciation est assez intéressante. Alors, je ne dis pas grand-chose de ce point 5. Le corps est l'archi-symbolisable. Chez Lacan, qui est l'auteur de cette formule, il y a une triade qui est fort intéressante. C'est le réel, l'imaginaire et le symbolique. L'imaginaire et le symbolique. Donc, ce qui est le plus évolué, bien sûr, c'est le symbolique. L'imaginaire, eh bien, c'est les fantasmes qui sont créés autour du réel pour le renforcer ou pour l'éviter. Et le réel, ben, c'est le réel brut. Alors, le réel brut, pour Lacan, l'exemple typique du réel, eh bien, c'est la mort. Voilà. On rencontre la mort, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, il n'y a pas moyen d'y échapper, c'est comme ça. Le réel. Hein. Alors bien sûr, il y a toutes les autres contraintes du réel que nous connaissons bien et que nous essayons d'emberlificoter dans notre imaginaire pour un peu échapper à la dureté de ce réel, parce que le réel est dur. Mais le symbolique essaie de réconcilier les deux, hein, d'inclure le principe de réalité si on veut, mais de ne pas tomber dans le piège du principe de plaisir qui se trouve ici, et de faire quelque chose de symbolique, ça veut dire donner sens, donner valeur, hein, dans la mesure du possible, à ce réel, en passant par un imaginaire qui peut le transformer, hein, qui peut l'embellir, qui peut l'exalter, qui peut le désamorcer, etc. Mais de manière consciente, on n'est plus simplement dans l'imaginaire. Eh bien, le symbole, c'est donc cette manière d'appréhender le réel et de lui donner un certain sens, hein, de lui donner une certaine beauté, une certaine valeur. Eh bien, le symbole s'enracine, selon lui, dans le réel du corps. Le corps est là, et tous nos symboles, eh bien, sont créés à partir de notre expérience du corps. Alors là, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très intéressant de se dire quelles sont les expressions purement abstraites que j'ai dans la tête. Il y en a très très peu. Même 2 plus 2 égale 4, ben vous imaginez des pommes sur un panier, je ne sais pas quoi. C'est très difficile. Alors bien sûr, on peut s'entraîner à avoir des abstractions, mais quand vous devez expliquer la physique à quelqu'un qui ne comprend rien, ben alors vous prenez des élastiques, des cordes, des trucs qui tombent comme ça, et des balançoires. Vous prenez, hein, des choses qui vous donnent un rapport au corps. Hein. Voilà, j'arrête ici. La prochaine fois, comme je vous ai dit, je prendrai la dimension du corps, ce sera corps 2, mais à partir du livre de Max Scheler, La pudeur, et ça me permettra de parler, disons, assez bien de la polarité homme-femme à l'intérieur de cette polarité corps-esprit.